Oui, dans lui-même, il y a quelque chose qui est relié à lui. Je pense qu'on peut le relier à... Et puis, alors, plus là, mais ça, ça c'est... Hed, c'est 8, et vous avez de nouveau Shmoné là-dedans. Hashmonaï. Mais, oui, ça nous indique que, dans la formulation même, il y a une perspective qui nous définit précisément cette réalité de Hanouka comme étant l'inauguration messianique, et qui se fait toujours un 25 qui se lève. Ça, c'est relié au thème de la lumière, on n'a pas le temps. Cette fois-ci, le thème de la lumière, Hanouka, c'est Hanouko. Bon, c'est le thème du 25, Yehio, 25 Elul, 25 qui se lève, Kot Evarechou, Kot Omar El Bene Israël, Vanivana Arne Lecha Hadko. Ça, on aura peut-être un autre séminaire sur le 25. Pourquoi c'est ce jour-là que la lumière apparaît. Yehi, oh, Yehi, ça fait 25. Yehi, oh. Le fiat de oh, c'est 25. C'est le 25 Elul. Et le 25 Elul est relié au 25 qui se lève. Bon, c'est un autre problème, mais je vais simplement indiquer.
Et le pain et le cas.
Ma
Le pain et le cas.
Non, on n'aura pas le temps. Mais c'est rien. Il faut toujours. Le problème est le suivant, c'est que la cérémonie par lequel se trouvait légitimisé le Mashiach, c'est la cérémonie de l'onction par lui. Et il y a deux catégories du Mashiach. Il y a le Kohen Mashiach et le Melech Mashiach. Tu veux bien? Et le vocabulaire chrétien, à partir de Christos grec, a fait du mot Mashiach, Messie, un mythe. Mais on va essayer de revenir en terre hébraïque, si j'ose dire. Qu'est-ce que c'est que cette cérémonie de l'onction par la Meshicha, et qui est, d'une certaine manière, un rite de ordination, de légitimation. Le candidat à être grand prêtre, il peut y en avoir plusieurs, tous autant légitimes l'un que l'autre par identité. Okay. Au niveau, ils se trouvent tous ces candidats à la prétention d'être Kohen Gadol, dans leur légitimité, qui va voir la différence? Il faut que le prophète décide, parmi tous possibles, c'est lui. Alors, c'est la cérémonie de l'onction. C'est le Kohen ou le Melech légitimisé par la cérémonie de l'onction. Et Mashiach vient du verbe qui veut dire oindre. C'est littéralement en français le oin. Vous comprenez? Altigeru bimshichai ou bimdiyai altareu, Mashiach est toujours donné au pluriel. Il y a Mashiach ben Yosef, il y a Mashiach ben David. Sachez que chaque tribu a son Mashiach. Il y a Mashiach ben Ephraim, Mashiach ben Yehuda, il y a Mashiach ben Levi. Il y a le Kohen à Mashiach. Altigeru bimshichai, dans le verset des psaumes, c'est où? La mythologie occidentale a fait de ce mot Messie une espèce de monstre mythique. Mais ça veut dire que dans chaque génération, bien que pas dévoilé, ça c'est le dernier enseignement que Michel vous a donné quand j'étais à l'école rabbinique, chaque génération a son Mashiach, mais il n'est pas dévoilé, seulement il fonctionne. Et vous comprenez ce que je veux dire? C'est celui qui est parmi tous les candidats possibles à la fonction d'être le chef de la communauté d'Israël, au niveau sacerdotal ou au niveau politique, celui qui est reconnu comme étant la figure de proue. Mais cette reconnaissance doit venir d'en haut, alors que la candidature vient d'en bas et a sa propre légitimité. Est-ce que c'est suffisamment clair?
Oui.
C'est une autre catégorie, le Tamil Haram. C'est une autre catégorie, c'est celui qui est capable d'être Melech et celui qui est capable d'être Kohen. Okay. Le Kohen nous a été dévoilé, mais le Melech ne nous a pas été dévoilé. Mais là, il faut voir que les Talmid Chachamim savaient que Hayom im Bekolo Tishma'u, eh bien, il se dévoile et il dit coucou, c'est moi, Sinaï. Okay. Mais je voudrais revenir sur ce point. Au bout de 2000 ans d'exil, nous avons fait la preuve que nous sommes pas des idolâtres et qu'on n'a pas besoin d'images. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que nous disons dans la tuila? Nous vivons un temps messianique, mais nous n'avons pas besoin d'une image. Ça fonctionne, il n'y a pas besoin d'image. Si c'était l'image l'important, nous serions des idolâtres. la qu'est-ce que nous disons dans la tefila de Shabbat et Yom Tov dans le Yotzer? Ephes biltecha goalenu limot amashiach. Ephes biltecha goalenu limot amashiach. Et ça veut dire rien d'autre que toi, notre libérateur, Dieu, au temps du Messie, au jour du Messie. Mais c'est le jour du Messie. Alors il y a le Messie, pourquoi tu dis rien, personne d'autre que toi? Rien d'autre que toi au jour du Messie. Et le Messie, clown, Ephes. Nous n'avons pas besoin d'image. La réalité, c'est que ça fonctionne. C'est les idolâtres qui ont besoin d'une métaphore, qui ont besoin d'une image. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est très important de bien réfléchir à cela. Parce qu'il y a énormément de juifs que leurs pieds les empêchent à aller chez eux parce qu'ils n'ont pas vu l'image. Mais ils ne sont pas des idolâtres. Ça y est, c'est clair? Bon. Quoi?
Cette argumentation, ils nous font mal tous. Il faudrait quand même qu'elle soit quittée, parce que demain on l'aura oublié. Devant le mètre carré, d'autres réunis à l'éducation. J'ai fait une intervention qui m'a paru brillante. Je me suis dit, c'est le mètre carré, après il pourra plus parler. Je vais saluer parce que c'est pas la tête.
Mais écoutez, le père Carré, vous vous rappelez un souvenir de Genève? Non, de préhistoire, c'était avant Mahalia. Mais le père Carré avait préparé un texte écrit, il l'a lu, tout simplement. Bon, maintenant, ce qui s'est passé dans son âme ce soir-là, c'est son affaire. Seulement, je dois vous dire que c'était les intellectuels catholiques. Hein? Oui. Ben, ils ont édité un livre. Où ils ont mis ma communication avec un courage extraordinaire. Ils ont d'ailleurs bien rédigé, c'est pas moi qui l'ai rédigé, ils l'ont pris sur cassette et je leur ai dit, de même que quand je faisais des communications au colloque du CJR, je ne revoyais jamais le texte, de la même manière pour vous, écoutez, je vous ai dit ce que je vous ai dit, faites le compte rendu comme vous voulez. Et puis comme il n'y avait pas de faute d'orthographe, j'ai signé. Mais je dois vous dire qu'ils ont eu un courage extraordinaire. Et ce livre est étudié par énormément de docteurs en théologie qui font des thèses là-dessus. J'en ai reçu une manuscrit. Enfin, t'appelles la machine comme les thèses. Il y a un curé qui a fait sa thèse de théologie là-dessus. Okay? Alors oui, c'est rien ne se perd, mais tout est secret.
Vous avez, je crois,
c'est juste. Ils ont une mémoire, c'est juif.
Il avait un peu du monde, mais pas
de vous. Oui.
On se demande comment il peut y avoir dans la tête d'un universitaire une telle rapatrie de la gueule de Choto Bracadabra. Ah, oui. Donc il faut les rendre évident, même aux juifs.
Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Qu'il faut que j'écrive? Alors je vais vous dire.
Il t'a pris pour l'universitaire. Il t'a pris pour l'universitaire.
Ne me dites pas ça à Hanouka. Ne me dites pas ça à Hanouka, parce qu'il y a tout un thème de Hanouka. Je ne sais pas si on l'a étudié cette année. Que tout ce qui concerne Hanouka est resté oral. Parce que si on l'avait mis par écrit, c'était la preuve que les Grecs avaient vaincu. Vous voyez ce que je veux dire? Transformer la mémoire en livre, ça veut dire que, bon, on vous a ramené au 7, si j'ose dire. En 5-7. Bien, écoutez, je voudrais, avant de terminer. Si, tu as une question?
Oui, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport. Mais c'est pas pour encore des chiffres. Bon, il y a le chiffre 7, qui est le déterminisme, le chiffre 8, qui est le messianisme, le chiffre 9, que de la femme qui attend un bébé. Est-ce que c'est le surnaturel, le surnaturel de le 9, enfin,
C'est joli ce que tu dis là. Hein? Voilà, je vais dire ce que David a dit, je vais le dire à la voix haute. Mais vous voyez comment il faut manier avec précaution ces choses-là. Notre maître, M. Gordain, nous a enseigné un certain nombre de traditions, de gamatria, de rapport entre les valeurs numériques, mais avec une consigne qui nous vient des maîtres de l'Antiquité, on n'a pas le droit d'enseigner une notion de ce genre si on ne l'a pas reçue oralement de son maître. C'est-à-dire, si on prend une feuille blanche, on se met à faire des calculs, on se met à mélanger les lettres, on dit, tiens, j'ai trouvé une jolie chose, ça vous sort Dominique Aubier. Rien à voir avec la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire, okay. Sans nommer personne. Et donc, à manier avec précaution. Mais je vais un peu répondre à ce qu'a dit David, parce que c'est joli. Vous voyez, c'est différent. Quand on dit c'est joli, ben c'est joli. Bon, Torah, c'est machouaché. Et alors, donc il y a 7, c'est la nature, 8, c'est le niveau messianique, 9, c'est important, c'est les 9 mois de la gestation par la mère. Ça voudrait dire que faire un enfant, c'est encore plus surnaturel que le surnaturel. C'est très joli. Tant que j'ai pas une source, que je peux vous dire, c'est écrit là quelque part, ne serait-ce que Bérémèse, je ne peux pas vous dire cet aura, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très joli, j'écoute. Et je m'intéresse. Mais ce que je voudrais ajouter à ceci, c'est cela. La Kabbalah enseigne que nous allons de monde en monde. Et ne croyez pas que ça va s'arrêter au 8e monde. Ça va à l'infini. Alors on a un programme. D'ailleurs, c'est une programmation. Parce que le verset dit très exactement, ils iront de combat en combat, et la fin du verset dit, et la fin du verset dit, Yerae el Elohim Betzion. C'est la fin du verset, j'ai rien inventé. Okay? Ça veut dire qu'il y a un degré qui s'appelle Tzion. Ceci pour dire que nous parlons du monde à venir. Mais suivant la tradition, c'est une échelle. Et qu'il s'agit d'un Olam Haba très inférieur par rapport au Olam Haba supérieur l'un après l'autre. Bon, on referme la parenthèse, parce que c'est un peu vertigineux. Mais après 9, il y a 10. Et après 10, il y a 11. Il y a 12, il y a 13. Quand on arrive à 13, c'est déjà très très bien. Bon, mais le programme que nous laissons pour les enfants des enfants des enfants, qui nous donne rendez-vous à la fin des temps, nos enfants. C'est-à-dire, nous avons rendez-vous avec eux. Écoutez, je ne voudrais pas...
Je voudrais ajouter un mot dans un enseignement de Jacob Gordon, Zirconi Vopo, à propos de Hanouka, qui est effectivement une fête très différente. Les fêtes sont fixées par Dieu, et c'est Israël qui suit. Ici, il s'agit d'une des fêtes instituées par Israël, et c'est Dieu qui suit, qui accepte l'initiative d'en bas. Et vous savez qu'il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, dans quel ordre faut-il allumer les lumières ? Faut-il allumer le premier jour, 8, puis 7, etc., comme les sacrifices de Sukkot, par exemple, ou faut-il allumer d'abord 1, 2, 3 ? Et la halakha, et comme vous le savez, il faut allumer d'abord 1, 2, 3, 4, 5. Et alors,
comme
Beth Hillel. Et alors, monsieur Gordin rappelait que, d'habitude, tout le but du tikkun haolam que fait Israël, c'est d'arriver à l'unité, à la réunification. Mais Hanouka, c'est une révolte. C'est une révolte contre, justement, les malcoyotes. Par conséquent, nous allons du 1 à la multiplicité. Nous voulons éclater ce cadre. C'est une révolte contre. Et on allume, comme vous le savez, 36 lumières. Et M. Gordon disait, à Shabbat, on allume les lumières. C'est aussi la lumière, c'est ce qui reste, disait-il, quand on est en galoute, quand on n'a plus de temple, quand on n'a plus rien, il reste nerf, il reste la lumière. Alors on allume deux lumières. Et au ciel, disait-il, s'allume la lumière et Israël fait comme. Tandis qu'à Hanouka, c'est Israël qui décide d'allumer. Et nous allumons, et le ciel allume aussi. Nous allumons 36 lumières et le ciel allume 36. Et ça donne la gématrie de 72, qui est celle de Maccabi. Maccabi, c'est 72, et qui est le grand nom. 72, c'est la gématria du grand nom de Dieu. Simplement, bien entendu, dans toute une révolte, il faut qu'elle soit légitime. Pour être légitime, elle doit être celle d'un tzaddik. Et la révolte de Hanouka... L'initiative d'en bas est possible. L'initiative d'en bas n'est pas forcément non cachère. Mais il y a un risque de savoir si cette initiative va coïncider avec le destin de Dieu.
Bien. Écoutez, je vais donner la parole et ensuite je vais te répondre. Okay.
Une question que vous y avez déjà répondu, vous me dites que je n'apprendrai pas à propos de l'huile, Chemin Chayam Mouna, est-ce que ça veut dire que c'était. Rejoins ce que vous avez dit à propos de la dialectique de la dialectique de la question. Est-ce que ça veut dire que c'était une huile qui était simplement renouvelée quelque part, ou est-ce que c'était une huile qui attendait tranquillement?
Ça peut vouloir dire les deux. Ça peut vouloir dire les deux. J'en profite pour dire tout à l'heure, je suis sorti parce qu'on m'a demandé d'aller
remettre un prix au Talmud Torah à l'école rabbinique, au Talmud Torah de l'école rabbinique, au nom du grand rabbin Shili et du grand rabbin Mimaïm, de Khomam Mimra, qui ont été mes maîtres et mes amis. Et j'ai dit là-bas ce que je vais répondre là. C'est ceci, c'est que, voilà, il y a eu cette capacité à ce moment-là, qu'un reste de pureté tienne le coup, jusque à nous laisser le temps de recommencer la récolte de l'avenir, la moisson de l'avenir. Il y a eu des hommes comme ça, et pas seulement lui elle-même. C'est-à-dire, voilà, les Grecs avaient négligé une petite chose, de cette petite chose erreuse à recommencer la grande lumière. Mais on peut dire aussi qu'une toute petite chose s'était mise dans le coin pour ne pas être prise par les Grecs à l'ombre de Keren Zavid, et puis que c'est de cette modestie-là, mais en même temps d'esprit de résistance, que a pu revenir l'illumination. J'ai connu personnellement le dernier Dayan des grands rabbins allemands, qui est l'auteur du Sridesh, qui était un des grands rabbins qui enseignait à la Yeshiva de Montreux, la Yeshiva du Rav Pochko, et c'est le Rav Weinberg, okay, le Rav du Sridesh. Il a écrit un livre de Shelo Tutshovo, après qu'il était libéré des camps de concentration, et qu'il a appelé Sridesh, les restes du feu. C'est-à-dire les restes de ceux qui ont été sauvés du Sridi, les survivants,
les rescapés
du feu. Et ça vaut la peine que je vous raconte, c'était d'ailleurs la période de Hanouka. J'étais à un camp de formation des cadres du DEL, dans une colonie de vacances en Suisse. Et puis, je reçois un coup de téléphone avec Sylvain Montreux. Eh bien, le Rav Weinberg est très malade et il voudrait te parler avant sa mort. Quoi. Et effectivement, j'étais un des derniers qui l'a béni à Rome. On a une petite conversation sur ces problèmes-là, d'ailleurs. Déterminisme, pas déterminisme, ça me revient en mémoire. Il m'a raconté cela. Il m'a dit, lui, était dans un tout petit camp de concentration oublié, qui n'a été libéré que quelques mois après par les Américains, quand ils se sont rendus compte que dans une petite bourgade, il y avait encore un petit camp. Il y avait quelques juifs là, dont le Rav de Sridesh. Et pendant des mois et des années, ils étaient persuadés qu'ils étaient les seuls juifs au monde. Vous voyez un peu cette expérience que beaucoup de cette génération ont pu avoir, mais là vraiment c'était historique, qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient les seuls au monde. Alors, ils faisaient un effort de mémoire gigantesque pour réécrire la Torah et l'enterrer de telle sorte qu'elle reste quelque part. Vous voyez, c'est un peu cette petite fiole qui, finalement, à partir de laquelle tout a pu recommencer. Nous avons été une génération de ce genre. Donc ça me dit, on est en transition, deux mots, pour clôturer cette partie d'en haut, en fait, cette partie du matin du séminaire. Deuxièmement, au sujet du nombre des justes, il y a 36 justes cachés, comme vous le savez, c'est un autre thème, que le roman de Schwarzbach, Le Dernier des Justes, a cité ça, quel sur une Gemara qui est très connue. M. Gordon nous dit aussi, il y a en réalité donc 36 justes et 36. Il y a les 36 tzadikim d'en bas et les 36 neshamot d'en haut. Mais il disait aussi qu'il y a 36 justes d'Israël cachés et 36 justes d'Egoïm cachés. Non, Bil'am c'est un tamé, c'est pas un tamé. Oulala, oulala. Non, oui, mais la comparaison n'est que formelle, faites attention. Bil'am, Arachar, c'est pas un tamé. Non, ça veut dire que vraiment là, et je vais ajouter simplement pour détendre un peu, vous connaissez l'expression française des 36 chandelles. Or, il est probable que ça vienne d'un tosfot quelconque en français, les 36 chandelles.